Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Françoise Sagan, Bonjour, tristesse. Après avoir dîné, nous allâmes dans une boîte de Saint-Raphaël. Peu de temps après notre arrivée, Elsa et Cyril arrivèrent. Elsa s'arrêta sur le seuil de la porte, parla très fort à la dame du vestiaire et, suivie du pauvre Cyril, s'engagea dans la salle. Je pensai qu'elle se conduisait plus comme une grue que comme une amoureuse. Mais elle était assez belle pour se le permettre. « Qui est ce Godelureau ?» demanda Charles Webb. « Il est bien jeune. »« C'est l'amour, » susurra sa femme. « L'amour lui réussit. »« Pensez-vous, » dit mon père avec violence, « c'est une tocade, ouais. » Je regardais Anne. Elle considérait Elsa avec calme, détachement, comme elle regardait les mannequins qui présentaient ses collections ou les femmes très jeunes, sans aucune acrimonie. Je l'admirais un instant passionnément pour cette absence de mesquinerie, de jalousie. Je ne comprenais pas d'ailleurs qu'elle eût à être jalouse d'Elsa. Elle était 100 fois plus belle, plus fine qu'Elsa. Comme j'étais ivre, je le lui dis. Que je suis plus belle qu'Elsa, vous trouvez ? Sans aucun doute. C'est toujours agréable, mais vous buvez trop une fois de plus. Donnez-moi votre verre. Vous n'êtes pas trop triste de voir votre Cyril là-bas ? D'ailleurs, il s'ennuie. C'est mon amant, dis-je gaiement. Vous êtes complètement ivre. Il est l'heure de rentrer, heureusement. Nous quittâmes les Webb avec soulagement. J'appelai Madame Webb « chère madame » avec componction. Mon père prit le volant, ma tête bascula sur l'épaule d'Anne. Je pensais que je la préférais aux Webb et à tous ces gens que nous voyons d'habitude, qu'elle était mieux, plus digne, plus intelligente. Mon père parlait peu. Sans doute revoyait-il l'arrivée d'Elsa. « Elle dort ?» demanda-t-il à Anne. Comme une petite fille, elle s'est relativement bien tenue, sauf l'allusion au maquereau qui était un peu directe. Mon père se mit à rire. Il y eut un silence. Puis j'entendis la voix de mon père. « Anne, je vous aime. Je n'aime que vous. Le croyez-vous ? Ne me dites pas cela si souvent. Cela me fait peur. Donnez-moi la main. » Je faillis me redresser et protester, non, pas en conduisant sur une corniche. Mais j'étais un peu ivre. Le parfum d'Anne, le vent de la mer dans mes cheveux, la petite écorchure que m'avait faite Cyril sur l'épaule pendant que nous nous aimions, autant de raisons d'être heureuse et de me taire. Je m'endormais. Pendant ce temps, Elsa et le pauvre Cyril devaient se mettre péniblement en route sur la motocyclette que lui avait offerte sa mère pour son dernier anniversaire. Je ne sais pourquoi cela m'émut aux larmes. Cette voiture était si douce, si bien suspendue, si faite pour le sommeil. Le sommeil, Madame Webb ne devait pas le trouver en ce moment. Sans doute, à son âge, je paierai aussi des jeunes gens pour m'aimer, parce que l'amour est la chose la plus douce et la plus vivante, la plus raisonnable. Et que le prix importe peu. Ce qui importait, c'était de ne pas devenir aigrie et jalouse, comme elle l'était d'Elsa et d'Anne. Je me mis à rire tout bas. L'épaule d'Anne se creusa un peu plus. « Dormez, » dit-elle avec autorité. Je m'endormis. Le lendemain, je me réveillai parfaitement bien, à peine fatigué, la nuque un peu endolorie par mes excès. Comme tous les matins, le soleil baignait mon lit. Je repoussai mes draps, ôtai ma veste de pyjama et offris mon dos nu au soleil. La joue sur mon bras replié, je voyais au premier plan le gros grain du drap de toile et plus loin, sur le carrelage, les hésitations d'une mouche. Le soleil était doux et chaud. Il me semblait qu'il faisait affleurer mes os sous la peau, qu'il prenait un soin spécial à me réchauffer. Je décidai de passer la matinée ainsi, sans bouger. La soirée de la veille se précisait peu à peu dans ma mémoire. Je me souvins d'avoir dit à Anne que Cyril était mon amant, et cela me fait rire. Quand on est ivre, on dit la vérité, et personne ne vous croit. Je me souvins aussi de Madame Webb et de mon altercation avec elle. J'étais accoutumé à ce genre de femmes. Dans ce milieu et à cet âge, elles étaient souvent odieuses à force d'inactivité et de désir de vivre. Le calme d'Anne m'avait fait la juger encore plus atteinte et ennuyeuse que d'habitude. C'était d'ailleurs à prévoir. Je voyais mal qui pourrait, parmi les amis de mon père, soutenir longtemps la comparaison avec Anne. Pour passer des soirées agréables avec des gens, il fallait soit être un peu ivre et prendre plaisir à se disputer avec eux, soit entretenir des relations intimes avec l'un ou l'autre des conjoints. Pour mon père, c'était plus simple. Charles Webb et lui étaient chasseurs. Devine qui dîne et dort avec moi ce soir. La petite Mars, du film de Sorel. Je rentrais chez Dupuis et... Mon père riait et lui tapait sur l'épaule. Heureux homme, elle est presque aussi belle qu'Élise. Des propos de collégien. Ce qui me les rendait agréables, c'était l'excitation, la flamme que tous deux y mettaient. Et même pendant des soirées interminables aux terrasses des cafés, les tristes confidences de Lombard. Je n'aimais qu'elle, Raymond. Tu te rappelles, ce printemps, avant qu'elle parte, c'est bête, une vie d'homme pour une seule femme. Cela avait un côté indécent, humiliant mais chaleureux, deux hommes qui se livrent l'un à l'autre devant un verre d'alcool. Les amis d'Anne ne devaient jamais parler d'eux-mêmes. Sans doute ne connaissaient-ils pas ce genre d'aventure. Ou bien même s'ils en parlaient, ce devait être en riant par pudeur. Je me sentais prête à partager avec Anne cette condescendance qu'elle aurait pour nos relations, cette condescendance aimable et contagieuse. Cependant, je me voyais moi-même à 30 ans plus semblable à nos amis qu'à Anne. Son silence, son indifférence, sa réserve m'étoufferait. Au contraire, dans 15 ans, un peu blasé, je me pencherais vers un homme séduisant, un peu là lui aussi. Mon premier amant s'appelait Cyril. J'avais près de 18 ans. Il faisait chaud sur la mer. Je me plus à imaginer le visage de cet homme. Il aurait les mêmes petites rides que mon père. On frappa à la porte, j'enfilai précipitamment ma veste de pyjama et criai « Entrez !» C'était Anne. Elle tenait précautionneusement une tasse. J'ai pensé que vous auriez besoin d'un peu de café. Vous ne vous sentez pas trop mal ? Très bien, dis-je. J'étais un peu parti hier soir, je crois. Comme chaque fois qu'on vous sort. Elle se mit à rire. Mais je dois dire que vous m'avez distraite. Cette soirée était longue. Je ne faisais plus attention au soleil, ni même au goût du café. Quand je parlais avec Anne, j'étais parfaitement absorbé. Je ne me voyais plus exister et pourtant elle seule me mettait toujours en question, me forçait à me juger. Elle me faisait vivre des moments intenses et difficiles. Cécile, vous amusez-vous avec ce genre de gens, les Webb ou les Dupuis ? Je trouve leur façon assommante pour la plupart, mais eux sont drôles. Elle regardait aussi la démarche de la mouche sur le sol. Je pensais que la mouche devait être infirme. Anne avait des paupières longues et lourdes. Il lui était facile d'être condescendante. Vous ne saisissez jamais à quel point leur conversation est monotone et, comment dirais-je, lourde. Ces histoires de contrats, de filles, de soirées, ça ne vous ennuie jamais ? Oh, vous savez, dis-je, j'ai passé 10 ans dans un couvent, et comme ces gens n'ont pas de mœurs, cela me fascine encore. Je n'osais ajouter que cela me plaisait. Depuis 2 ans, dit-elle. Ce n'est pas une question de raisonnement, d'ailleurs, ni de morale, c'est une question de sensibilité, de 6e sens. Je ne devais pas la voir. Je sentais clairement que quelque chose me manquait à ce sujet. « Anne, dis-je brusquement, me croyez-vous intelligente ?» Elle se mit à rire, étonnée de la brutalité de ma question. « Oh mais bien sûr, voyons, pourquoi me demandez-vous cela ?» Si j'étais idiote, vous me répondriez de la même façon, soupirai-je. Vous me donnez cette impression souvent de me dépasser. Bon, c'est une question d'âge, dit-elle. Il serait très ennuyeux que je n'aie pas un peu plus d'assurance que vous. Vous m'influenceriez. Elle éclata de rire. Je me sentis vexé. Ce ne serait pas forcément un mal. Ce serait une catastrophe, dit-elle.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, chimes ring 5, 6 and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonjour Tristesse, Françoise Sagan. Suite. Anne quitta brusquement ce ton léger pour me regarder bien en face dans les yeux. Je bougeais un peu, mal à l'aise. Même aujourd'hui, je ne puis m'habituer à cette manie qu'ont les gens de vous regarder fixement quand ils vous parlent ou de venir tout près de vous pour être bien sûr que vous les écoutiez. Faux calcul d'ailleurs, car dans ces cas-là, je ne pense plus qu'à m'échapper, à reculer. Je dis « oui, oui ». Je multiplie les manœuvres pour changer de pied et fuir à l'autre bout de la pièce. Une rage me prend devant leur insistance, leur indiscrétion, ces prétentions à l'exclusivité. Anne, heureusement, ne se croyait pas obligée de m'accaparer ainsi, mais elle se bornait à me regarder sans détourner les yeux, et ce ton distrait, léger, que j'affectionnais pour parler, me devenait difficile à garder. Savez-vous comment finissent les hommes de la race de Webb ? Je pensais intérieurement, et de mon père. Dans le ruisseau, dis-je gaiement. Il arrive un âge où ils ne sont plus séduisants, ni en forme, comme on dit. Ils ne peuvent plus boire, et ils pensent encore aux femmes. Seulement, ils sont obligés de les payer, d'accepter des quantités de petites compromissions pour échapper à leur solitude. Ils sont bernés, malheureux. C'est ce moment qu'ils choisissent pour devenir sentimentaux et exigeants. J'en ai vu beaucoup devenir ainsi des sortes d'épaves. Pauvre Webb, dis-je. J'étais désemparé. Telle était la fin qui menaçait mon père, c'était vrai. Du moins la fin qu'il l'eût menacée si Anne ne l'avait pas prise en charge. « Vous n'y pensiez pas, » dit Anne avec un petit sourire de commisération. « Vous pensez peu au futur, n'est-ce pas ? C'est le privilège de la jeunesse. » « Je vous en prie, » dis-je, « ne me jetez pas ainsi ma jeunesse à la tête. Je m'en sers aussi peu que possible. Je ne crois pas qu'elle me donne droit à tous les privilèges ou à toutes les excuses. Je n'y attache pas d'importance. » À quoi attachez-vous de l'importance ? À votre tranquillité ? À votre indépendance ? Je craignais ces conversations, surtout avec Anne. « À rien, » dis-je. « Je ne pense guère, vous savez. » « Vous m'agacez un peu, votre père et vous. Vous ne pensez jamais à rien. Vous n'êtes pas bon à grand-chose. Vous ne savez pas. Vous vous plaisez ainsi ? Je ne me plais pas, je ne m'aime pas, je ne cherche pas à m'aimer. Il y a des moments où vous me forcez à me compliquer la vie, je vous en veux presque. » Elle se mit à chantonner, l'air pensif. Je reconnaissais la chanson, mais je ne me rappelais plus ce que c'était. « Quelle est cette chanson, Anne ? Ça m'énerve. » « Je ne sais pas. » Elle souriait à nouveau, l'air un peu découragé. « Restez au lit, reposez-vous. Je vais poursuivre ailleurs mon enquête sur l'intellect de la famille. » Naturellement, pensais-je pour mon père, c'était facile. Je l'entendais d'ici. « Je ne pense à rien parce que je vous aime, Anne. » Si intelligente qu'elle fût, cette raison devait lui paraître valable. Je m'étirai longuement, avec soin, et me replongeai dans mon oreiller. Je réfléchissais beaucoup malgré ce que j'avais dit à Anne. Au fond, elle dramatisait certainement. Dans 25 ans, mon père serait un aimable sexagénaire, à cheveux blancs un peu portés sur le whisky et les souvenirs colorés. Nous sortirions ensemble. C'est moi qui lui raconterais mes frasques et lui me donnerais des conseils. Je me rendis compte que j'excluais Anne de ce futur. Je ne parvenais pas à l'y mettre. Dans cet appartement en pagaille, tantôt désolé, tantôt envahi de fleurs, retentissant de scènes et d'accents étrangers, régulièrement encombré de bagages, je ne pouvais envisager l'ordre, le silence, l'harmonie qu'apportait Anne partout comme le plus précieux des biens. J'avais très peur de m'ennuyer, à mourir. Sans doute craignais-je moins son influence depuis que j'aimais réellement et physiquement Cyril. Cela m'avait libéré de beaucoup de peur. Mais je craignais l'ennui, la tranquillité plus que tout. Pour être intérieurement tranquille, il nous fallait à mon père et à moi l'agitation extérieure. Et cela, Anne ne saurait l'admettre. Je parle beaucoup d'Anne et de moi-même, et peu de mon père. Non que son rôle n'ait pas été le plus important dans cette histoire, ni que je ne lui accorde de l'intérêt. Je n'ai jamais aimé personne comme lui, et de tous les sentiments qui m'animaient à cette époque, ceux que j'éprouvais pour lui étaient les plus stables, les plus profonds, ceux auxquels je tenais le plus. Je le connais trop pour en parler volontiers, et je m'en sens trop proche. Cependant, c'est lui plus que tout autre que je devrais expliquer pour rendre sa conduite acceptable. Ce n'était ni un homme vain, ni un homme égoïste. Mais il était léger, d'une légèreté sans remède. Je ne puis même pas en parler comme d'un homme incapable de sentiments profonds, comme d'un irresponsable. L'amour qu'il me portait ne pouvait être pris à la légère, ni considéré comme une simple habitude de père. Il pouvait souffrir par moi plus que par n'importe qui. Et moi-même, ce désespoir que j'avais touché un jour, n'était-ce pas uniquement parce qu'il avait eu ce geste d'abandon, ce regard qui se détournait? Il ne me faisait jamais passer après ses passions. Certains soirs, pour me raccompagner à la maison, il avait dû laisser échapper ce que Webb appelait de très belles occasions. Mais qu'en dehors de cela, il eût été livré à son bon plaisir, à l'inconstance, à la facilité, je ne puis le nier. Il ne réfléchissait pas. Il tentait de donner à toute chose une explication physiologique qu'il déclarait rationnelle. « Tu te trouves odieuse. Dors plus, bois moins. » Il en était de même du désir violent qu'il ressentait parfois pour une femme. Il ne songeait ni à le réprimer, ni à l'exalter jusqu'à un sentiment plus complexe. Il était matérialiste, mais délicat, compréhensif, et enfin très bon. Ce désir qu'il avait d'Elsa le contrariait, mais non, comme on pourrait le croire. Il ne se disait pas « je vais tromper Anne, cela implique que je l'aime moins ». Mais c'est ennuyeux cette envie que j'ai d'Elsa. Il faudra que ça se fasse vite ou je vais avoir des complications avec Anne. De plus, il aimait Anne. Il l'admirait. Elle le changeait de cette suite de femmes frivoles et un peu sottes qu'il avait fréquentées ces dernières années. Elle satisfaisait à la fois sa vanité, sa sensualité et sa sensibilité, car elle le comprenait, lui offrait son intelligence et son expérience à confronter avec les siennes. Maintenant qu'il se rendit compte de la gravité du sentiment qu'elle lui portait, j'en suis moins sûr. Elle lui paraissait la maîtresse idéale, la mère idéale pour moi. Pensait-il l'épouse idéale ? Avec tout ce que cela entraîne d'obligations, je ne le crois pas. Je suis sûr qu'aux yeux de Cyril et d'Anne, il était comme moi anormal, affectivement parlant. cela ne l'empêchait pas d'avoir une vie passionnante parce qu'il la considérait comme banale et qu'il y apportait toute sa vitalité. Je ne pensais pas à lui quand je formais le projet de rejeter Anne de notre vie. Je savais qu'il se consolerait comme il se consolait de tout. Une rupture lui coûterait moins qu'une vie rangée. Il n'était pas vraiment atteint et miné que par l'habitude et l'attendu comme je l'étais moi-même. Nous étions de la même race, lui et moi. Je me disais tantôt que c'était la belle race pure des nomades, tantôt la race pauvre et desséchée des jouisseurs. Voilà, nous avons terminé pour ce soir, donc la suite de ce roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, que nous terminerons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.